Voilà, bonjour à chacun. Heureux de vous rencontrer dans ce week-end et de vous saluer aussi de la part de vos frères et sœurs de Valence qui ce matin aussi sont réunis pour louer le Seigneur et lui apporter leur amour. Que Dieu vous bénisse à Annecy et qu'il bénisse cette région, cette belle ville en parcourant les rues de cette ville hier après-midi avec Alain Ray, votre pasteur. J'ai vu une belle ville. Il y avait beaucoup de monde en ville. Il faisait beau. Beaucoup de monde au bord du lac et dans les rues piétonnes de la vieille ville. Et j'ai dit à mon frère, il y en a combien qui sont sauvés? Il y en a combien qui connaissent Jésus? Et je crois que Dieu a placé dans cette ville un endroit où il y a de la lumière. C'est son église. Un endroit où il y a une bonne nouvelle. C'est sa parole. Un endroit où, je l'ai dit hier soir, on se forme. On apprend. On apprend les uns des autres. C'est une vraie école, l'église. Un vrai centre de formation. Et en plus, on peut s'inscrire à tout âge. C'est de la formation continue. Et on peut apprendre de lui, par son esprit, jusqu'au bout. Alors, effectivement, vendredi soir, on a vu combien c'était important d'avoir le cœur de serviteur. Tout vient du cœur. Tout vient du cœur de Dieu, qui nous a tellement aimés et nous a donné son Fils Jésus. Tout vient d'un cœur qui bat pour nous, qui nous aime, on l'a entendu ce matin. Et en retour, tout notre service doit venir de notre cœur. Faisons les choses avec cœur. Ne les faisons pas parce que le pasteur l'a dit ou parce que ça fait bien devant les autres. Ça ne tient pas devant Dieu. C'est au cœur que Dieu regarde. Amen. Maintenant, hier soir, on a partagé effectivement que il fallait, une fois le cœur en place, le cœur nouveau, le cœur aimant, il fallait quand même accepter un certain cursus de formation. Est-ce que vous êtes ouvert à cela? Est-ce que vous voulez apprendre? Ou est-ce que, comme quelqu'un me l'a dit un jour, je sais. C'était pénible. Je travaillais à la banque à l'époque et ils avaient embauché la fille du grand patron. Et elle était à côté de moi, très imbue du fait qu'elle était la fille de... Mais elle ne savait pas plus le métier que quelqu'un qui démarre. Et elle me répondait sans cesse quand je lui disais « on fait comme ça ». Elle me disait « je sais ». Un jour, énervé, je lui ai dit « tu sais rien. T'as beau être la fille du grand patron, t'es là pour apprendre. Je sais. » Puis elle avait un petit accent, elle disait « j'y sais. T'y sais rien. » Et d'accord ? On est tous à l'école de Dieu. Amen. Le troisième volet de ce thème, et on n'aura pas fini en trois volets, c'est effectivement de bien comprendre que nous sommes toutes et tous serviteurs et servantes. Il y a un énorme problème, certainement dans notre pays de tradition catholique, il y a un énorme piège dans lequel on tombe facilement, c'est le piège du clergé. Et on pense que les serviteurs de Dieu sont une certaine catégorie de personnes, alors que la Bible nous dit, nous sommes toutes et tous servantes et serviteurs. Je vous invite à lire deux textes. Dans la première épître de Pierre, tout d'abord, au chapitre 2, verset 4. On commence la lecture au verset 4. 1 Pierre 2, 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. C'est de Jésus dont il est question. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. On continue notre lecture un peu plus bas, versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Le Seigneur n'a pas d'autre méthode et il n'en changera pas de parler à ce monde perdu par le moyen de son Église. Et quand chacun dans l'Église prend conscience que le Seigneur l'a sauvé pour servir, et le service premier qu'il nous demande, eh bien, c'est certainement d'être ses témoins auprès du monde d'aujourd'hui. Si chacun fait son travail, alors peut-être que quand je reviendrai l'année prochaine, vous serez deux fois plus. Pourquoi est-ce qu'on ne se multiplierait pas? Pourquoi est-ce qu'un chrétien n'engendrerait pas un autre chrétien? Ce sont les brebis qui enfantent. Les bergers sont là pour soigner le troupeau, mais ce sont les brebis qui enfantent. Qu'est-ce que vous en pensez? Le deuxième texte que j'aimerais que nous lisions, et qui aura aussi certainement besoin de quelques explications, même si on le connaît bien, c'est dans Éphésiens, au chapitre 4. On va lire du verset 1er jusqu'au verset 16. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Alors, on voit bien dans ces deux textes qu'il y a une pensée divine, une volonté divine de faire du corps de Christ, de faire de l'Église, de faire du temple de Dieu le serviteur, la servante dont Dieu va se servir. Peut-être certains me diront, mais vous voyez, frère, dans le texte d'Éphésiens 4, il y a bien des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Mais bien sûr, mais n'oubliez pas, il ne faut jamais sortir un texte de son contexte, que la suite nous dit qu'ils sont là pour le perfectionnement des saints, pour que les saints, et les saints c'est vous, chez nous les saints sont sur les chaises, pas dans les niches. C'est vous les saints, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, et de quel ministère il s'agit, du vôtre. Nous sommes à votre service. Nous sommes, non pas au-dessus, mais à côté. Pour, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Seigneur, vous perfectionner, vous aider, vous encourager, vous aider à trouver votre place et votre service pour que, ayant trouvé votre appel et votre don, vous puissiez l'exercer dans le respect, bien sûr, des autres membres du même corps. Je crois que nous sommes donc appelés tous et toutes serviteurs. Il faut éviter le piège du clergé, auquel on confie, finalement, le service. Hey, pasteur, c'est ton job. Et même, j'ai déjà entendu, t'es payé pour ça. Comme c'est affreux, hein, d'être tombé si bas, d'avoir transféré sur quelques têtes le service. Ce sont des restes de l'Ancien Testament, où effectivement il y avait une tribu qui était choisie pour s'occuper du tabernacle, le monter, le démonter, qui était choisie pour entretenir le chandelier et les autels, etc. Ce sont des restes de l'Ancien Testament. Ou alors, puisque l'Église catholique romaine a copié l'Ancien Testament, ce sont des restes du catholicisme. Et je pourrais vous raconter, puisque j'en suis un ancien catholique, combien, quand vous êtes formaté avec ça, il faut vraiment une action de Dieu pour vous déprogrammer, pour changer le logiciel. J'ai raconté vendredi soir une partie de mon témoignage, et très tôt, je disais à mes parents, je veux servir Dieu. Et dans cette vallée très catholique, dans cette famille très catholique pratiquante, on m'a donc ouvert tout grand les portes de la formation pour devenir prêtre. Et je suis parti pendant plusieurs années dans cette formation. Et j'étais persuadé que j'allais intégrer le clergé. On allait jusqu'à nous dire que c'était nous les élus, il y avait beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. on peut tordre le sens des Écritures. Quand on veut faire dire à la Bible ce qui nous arrange, on y arrive. Alors que la Bible dit qu'on est tous un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. On est tous prêtres, tous sacrificateurs. Le comble, c'est que j'étais persuadé que j'allais enseigner le peuple et que moi-même, je le disais vendredi soir, j'avais pas de relation avec Dieu, je n'étais pas converti, je me remplissais la tête avec des connaissances, même si elles étaient bibliques, mais rien ne m'autorisait à parler de sa part. J'aurais répété comme un âne les choses qu'on me disait de dire sans comprendre que la parole de Dieu dit complètement autre chose. Vous êtes tous prêtres, tous sacrificateurs. Alors, soit c'est le clergé qui s'est arrogé le droit du service en disant « c'est réservé, touchez pas », soit c'est le peuple qui n'est pas entré dans son service et puis qui a confié ça à des spécialistes. Je crois que des deux côtés, on peut se remettre en question. Du côté du peuple de Dieu, dire « on a eu tort d'attendre que ça vienne d'en haut ». C'est à nous à nous retrousser les manches et à nous mettre au travail. Et puis côté pastoral, on a certainement eu tort de dire non, ils ne savent pas faire, on va faire. Il y a un certain moment où il faut faire, effectivement, mais aussi il faut faire savoir, faut apprendre aux autres afin qu'ils servent le Seigneur pleinement. J'aimerais ce matin vous montrer, vous donner envie d'être toutes et tous servantes et serviteurs. Parce qu'il y a d'immenses avantages à fonctionner comme la Bible nous le dit. Dieu ne s'est pas trompé. Quand il nous dit « vous êtes un sacerdoce », c'est le mot pour parler de cette fonction tellement belle du service de Dieu pour Dieu. Vous êtes un sacerdoce royal. Il y a d'immenses avantages quand tous s'y mettent. Alors, tordons le cou aux excuses, aux prétextes, puisque la Bible nous dit que nous sommes tous concernés, avons-nous le droit d'offenser Dieu en disant « non mais tous sauf moi, non mais je ne sais pas faire, non mais je suis timide ». Non, mais je bégaye, vous connaissez Moïse avec sa discussion avec Dieu. Oui, mais. Jusqu'à ce que Dieu se fâche un bon coup, elle lui dise, tu vas y aller, oui. Il y a d'immenses avantages. Le premier que je vois, c'est que tous travaillent. Moi, je préfère conduire, accompagner, former, participer à la formation de gens qui sont au travail. On a écrit dans le petit document M2 que vous pouvez vous procurer qu'il y a un grand problème dans le peuple de Dieu. C'est un peu comme dans un stade de foot. Il y en a 22 qui se fatiguent sur le terrain et puis des milliers qui regardent et qui auraient besoin d'exercice pendant que les autres auraient besoin de repos. Tous travaillent, mais c'est un immense avantage. On parle de la fatigue des dirigeants. D'ailleurs, pas seulement pour l'Église, c'est valable ça, mais dans les entreprises. La fatigue des dirigeants. Je crois que l'Église a quelque chose de plus, si on la vivait bien, cette dimension du service universel, du sacerdoce de tous. Tous travailleraient. Et je crois que quand on travaille, on s'aperçoit que le terrain, ce n'est pas toujours facile. On comprend les autres. On est beaucoup plus dans la réalité que sur les gradins à regarder les autres passer. Êtes-vous des voyageurs ou alors des spectateurs? pouvez être au balcon de votre église et regarder les autres passer en disant « il a oublié de mettre son chapeau, il n'a pas ciré ses chaussures ». Vous pouvez être spectateur, vous êtes à côté de ce que Dieu veut pour vous. Venez avec nous et marchez avec nous et travaillez avec nous. Et vous verrez, dans le travail, quand on intègre une équipe, on se connaît beaucoup mieux. L'église de Valence est déjà importante, c'est plusieurs centaines de personnes. Et plus l'église est grande, plus elle doit être petite. Et plus je veille, nous veillons, nous sommes plusieurs, à ce que chacun prenne une place dans une équipe. Et quand la personne est au travail dans une équipe et dans son appel avec les dons que Dieu lui a fait, nous sommes certains qu'elle est en sécurité, qu'elle va pouvoir être gardée par le groupe. On va prier les uns pour les autres. Et puis, les caractères vont se frotter. C'est très bon, ça. Ça se passe aussi à Annecy, ça. C'est très bon. Parce que on est là pour se sanctifier mutuellement. Et on travaille. Et on travaille pour le Seigneur. Ça a du sens, ce qu'on fait. On ne le fait pas, je le disais vendredi soir, comme un médicament pour guérir une mauvaise image de soi. On le fait parce qu'on aime le Seigneur et on est tous au travail. Écoutez, je vais vous donner quand même quelques statistiques. On estime que 25% à 30%, entre 25 et 30% de l'Église porte l'Église. Alors, je ne sais pas si ça s'applique ici. Si seulement un tiers s'occupe de tout, les deux tiers étant plus des consommateurs, des spectateurs, des analystes, et qui, effectivement, trouveront toujours quelque chose à redire, parce que dans le tiers qui bosse, il y a plein de défauts. Est-ce que c'est une statistique qui s'applique à vous aussi ? Je vous laisse gérer ça avec votre pasteur et regarder de près comment faire bouger le curseur pour que l'année prochaine, on soit à 60% et l'année d'après à 90%. Parce qu'on est tous prêtres, tous sacrificateurs. Donc quand tous travaillent, eh bien je crois qu'on porte ensemble et chacun a une charge moins lourde, quoi. Et en fait, on peut en faire plus, en porter plus. Le frère l'a lu, Stéphane l'a lu avant la Sainte-Seine, je l'en remercie. C'est vraiment le texte qui image bien. C'est l'image du corps, 1 Corinthiens 12. L'image du corps. Imaginez que votre corps, ce matin, aux deux tiers, ait dit « je veux rester au lit ». Et que seulement un tiers ait dit « moi, je veux aller à l'église ». Donc, puisque vous êtes là, c'est que le tiers qui voulait venir a porté les deux tiers. Et c'est fatigant. Hein. Le corps nous donne une belle image de membres qui sont tous utiles, tous à leur place et tous soumis à la même tête, au même chef, irrigués par le même cœur qui bat. Qu'est-ce que c'est beau, hein? Et le texte biblique nous dit que c'est l'image que Dieu utilise pour nous dire mais vous êtes tous serviteurs. Votre petit doigt vous sert, votre orteil aussi. Et les membres les plus faibles, ceux qu'on estime faibles, ont leur utilité, ont leur fonction. Je crois que c'est un immense avantage. Tous sont irrigués. Tous sont nettoyés par le sang oxygéné qui vient, puis qui ramène avec après les impuretés, puis qui ramène de nouveau du sang oxygéné. Quelle merveille! Il paraît que notre cerveau vaut plus que tous les ordinateurs. Hein. On arrive avec l'ordinateur à imiter certaines choses, mais jusqu'à maintenant, preuve du contraire, J'ai jamais vu un ordinateur qu'il ne faut pas rebrancher régulièrement, hein, qui marche tout seul dans la rue, qui décide. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ouais. Je crois aussi qu'il y a un immense avantage à être tous au service, c'est qu'on va apprendre la soumission réciproque. Oh, ça, c'est... Vous savez, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite. Ça, c'est son état d'esprit. Il est tout le temps contrarié. Alors que celui qui a compris que l'Église, c'est lui, il en est une des pierres vivantes. S'il n'est pas là, sa place manque. Sa place est vide. Si on comprend qu'on a tous une place, on va devoir se soumettre les uns aux autres. Je prends une image qui est dans le texte, puisqu'il est parlé de pierres vivantes et de temples qui s'édifient. C'est un ancien fils de maçon qui vous parle. J'ai vu mon père procéder. À l'époque, on bâtissait encore avec les pierres ou les aglots. Et on mettait une pierre. Il y en avait toujours une au-dessus, une en dessous, une à droite, une à gauche. Vous pouvez regarder votre frère de devant, votre sœur de derrière, votre autre frère à côté, votre autre sœur. Voilà. Il y a... Je porte quelqu'un. Quelqu'un me porte. Je suis en lien avec quelqu'un à droite et quelqu'un à gauche. Pas d'indépendance. Pas de... cette fameuse soi-disant liberté. Il n'y a pas de liberté. On est libéré du joug du péché pour être mis à une place, une pierre vivante, hein, pas une pierre morte, une pierre vivante dans le bel édifice qu'est le temple du Seigneur. Mais impossible d'être à sa place sans être soumis les uns aux autres. Certes, dans un domaine, vous serez peut-être l'autorité pour celui d'en dessous en disant, et il aura besoin de vous écouter, mais vous, dans un autre domaine, vous serez soumis. Et c'est comme ça que ça marche. Même le Seigneur s'est appliqué cette règle à lui-même. Il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Un officier romain l'avait compris. Moi qui ai des soldats sous mes ordres, je suis aussi soumis à des supérieurs. Alors, je crois que notre autorité vient de notre soumission. Le rebelle, c'est le diable. L'insoumis, c'est lui. Et s'il arrive à distiller dans vos cœurs un peu de son poison, il a commencé à faire son œuvre négative de destruction. Il y a un immense avantage à volontairement se soumettre les uns aux autres. Dans la crainte de Christ, dans la crainte respectueuse de la tête, la seule tête que nous avons tous, c'est Christ. Et s'il y en a un qui est notre grand prêtre, c'est Christ. Autre avantage, c'est l'unité. L'unité par un service bien accompli, bien compris par chacun. On va être unis, parce qu'on va tous dans la même direction, on sert tous le même Seigneur, on veut tous la même chose, le salut du plus grand nombre. On a une vision commune et on est unis. Ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ne servent pas, ont souvent un problème avec l'unité. Mais mettez-vous au travail et vous serez plus unis que jamais. Ça va ensemble. Il y a une seule tête. Il y a un seul corps. Il y a un seul esprit. Un seul. Vous avez vu combien de fois ça revient? Et le Seigneur, vraiment, je crois, s'adresse aux églises locales, aux assemblées locales dans chaque ville pour leur dire, mais soyez unis. Et la meilleure façon d'être unis, je le répète, c'est de venir sur le terrain du service. il va falloir, et ça c'est aussi un immense avantage, je le classe dans les avantages, il va falloir des liens entre les différentes parties du corps. Parce que si mon bras ce matin se détachait pour me dire « moi je rentre à Valence », j'aurais vraiment un problème pour conduire ma voiture. Il y a des liens solides et ce sont ces liens, les liens de son assistance qui vont former un solide assemblage. Dieu va unir et va relier des gens qui travaillent. Moi, j'ai assez vite communion avec ceux qui travaillent. Et je vous confesse que j'ai plus de mal avec ceux qui ne travaillent pas. Parce que je veux bien écouter leurs critiques, je veux bien écouter leur avis, très bien, très bien, très bien. Et au fait, et toi, ça va ton travail? Tu fais quoi dans l'Église? T'en es où avec le Seigneur? T'as compris que t'étais sauvé pour servir? Dans quelle formation t'es engagé? Et puis, puisque t'es formé pour ça, ben, mets-toi à l'action maintenant. Prends ta place. Et vous verrez rapidement, les liens se tissent entre ceux qui sont au travail. Si vous faites un peu d'exercice physique, vous savez bien que c'est bon pour l'ensemble du corps. Il faut que les muscles, la charpente, les os, le squelette, on n'est pas des invertébrés, on a une charpente, on a une colonne vertébrale. Il faut que tout ça soit bien coordonné. Et alors, le travail sera efficace. Je voudrais aussi qu'on s'arrête un petit peu sur, puisque j'ai parlé du piège du clergé, j'étudie en ce moment les sept lettres aux sept églises de l'Apocalypse et il y a un terme qui revient plusieurs fois, les œuvres des Nicolaïtes, la doctrine des Nicolaïtes. Et le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as dans ton sein des gens qui pratiquent les œuvres des Nicolaïtes ou qui répandent la doctrine des Nicolaïtes. Moi, ça m'a toujours intrigué ce mot. Vous savez ce que ça veut dire au fait? Les Nicolaïtes. En recherchant, je me suis aperçu de quelque chose qui me semble effectivement un grand danger pour l'Église. C'est plusieurs commentaires vont dans ce sens et disent que c'est le piège du clergé. Nicolas veut dire vainqueur du peuple. J'espère qu'il n'y a pas trop de Nicolas au milieu de nous qui se sentiraient visés. Mon collègue s'appelle Nicolas, donc il n'y a pas de problème, mais à l'époque, vainqueur du peuple, celui qui se met au-dessus du peuple. Et dans l'Église, il y en avait qui se mettaient au-dessus, et ce sont les premiers germes, les premiers bourgeons de l'institution du clergé. Et quand vous faites l'histoire de l'Église, vous voyez que ces bourgeons, ils ont vraiment poussé, ils ont vraiment pris de la force et de la place, et le clergé est devenu quelque chose de tellement institué. Alors, les ministères dons, qu'on a lus, cités dans Éphésiens 4, sont là au service du corps, pour faire croître le corps. Vous pouvez souligner avec moi le nombre de fois où les termes sont utilisés, édifier, édification, stature parfaite, croître, accroissement, perfectionnement, jusqu'à l'état d'homme fait. Fuyez les gens qui veulent vous dominer, qui veulent se mettre au-dessus, et comprenez que les pasteurs qui sont vraiment dans la note, ce sont ceux qui vont se mettre à votre service pour vous perfectionner, pour vous aider à entrer dans votre sacerdoce. Je reviens vers le texte d'Éphésiens 4 et je lis ceci, que les ministères dons, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, sont là donc pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère des saints et que, donc, le corps de Christ s'édifie. Et il y a un jusqu'à ce que. Et je me pose, je nous pose la question, et puis, comme je ne vous connais pas plus que ça, ben, vous répondez dans votre cœur pour vous-même. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, première unité, unité de la foi, et unité de la connaissance. Je me pose très honnêtement la question, si dans une assemblée comme celle-ci, mais je me la pose à Valence ou dans les assemblées que je visite, on croit tous la même chose. Unité de la foi. On a la même Bible. Mais c'est fou ce qu'il peut y avoir comme nuance. Il y en a qui croient, mais des choses qui ne sont même pas dans la parole. Pourtant, ils sont là. Et je crois qu'il faut les aider et qu'ensemble, on parvienne à l'unité de la foi. La saine doctrine. Aujourd'hui, et on sait que c'est un signe des temps, les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables et ils se donnent une foule de docteurs, et Internet vous en fournit autant que vous voulez, une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Est-ce qu'on est dans l'unité de la foi? Non, on est dans l'éparpillement, la dispersion et l'appauvrissement. Nous sommes là, et ce n'est pas toujours facile à remplir comme tâche, mais nous sommes là pour aller dans le sens de l'unité de la foi. Est-ce que vous avez au fait lu un jour les points fondamentaux de notre foi commune? Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Vous êtes dans une assemblée de Pentecôte, où l'on a dit vendredi et samedi l'importance de la vie de l'esprit, l'importance de l'engagement, du baptême d'eau des adultes. On sait bien que ensuite, eh bien, on est sauvé pour donc servir, entrer dans le service. Enfin, je vous renvoie à ces choses qui sont très faciles à comprendre, fondées sur la parole. Il y a toujours plein de versets qui expliquent pourquoi on croit ça. Est-ce qu'on croit tous la même chose? On est dans un pays très, très individualiste où chacun pense que, moi je pense que, moi je crois que. Et chacun est persuadé de détenir la vérité. Un peu d'humilité nous fera du bien afin de progresser, cheminer jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Jésus n'a pas dit autre chose dans sa prière. Je te prie, Père, afin qu'il soit un, comme nous sommes un. Et puis l'unité de la connaissance de Jésus. Est-ce que vous connaissez Jésus? Un jour, je vous raconte cette petite anecdote, je l'ai lue dans un ouvrage. On est dans une famille chrétienne. Et puis, il y a une opération d'évangélisation en ville les chrétiens vont donc frapper aux portes. Et ce matin-là, dans cette famille chrétienne, qui n'avait pas besoin d'être évangélisé, visiblement. La personne qui vient frapper, le chrétien qui vient frapper, trouve la dame, monsieur est parti au travail, et ce matin-là, il frappe à la porte, la dame ouvre, et l'homme, qui ne sait pas que c'est une chrétienne, lui dit, « Vous connaissez Jésus ?» Elle referme la porte et puis elle est sous le choc. Son mari rentre à midi pour le repas, rien n'est prêt. Bah, qu'est-ce qui se passe? Non mais il y a quelqu'un qui est passé ce matin et qui m'a posé une question, je suis très très brassé avec ça. Mais qu'est-ce qu'il t'a demandé? Mais il m'a demandé si je connaissais Jésus. Et t'as répondu quoi? Il dit, j'ai refermé la porte. Mais pourquoi t'as refermé la porte? T'aurais pu lui dire que t'allais dans l'église, que t'étais pleine d'œuvres et de bonnes œuvres. Non, mais ce n'était pas sa question. Il m'a demandé si je connaissais Jésus. Je connais tes œuvres, dit le Seigneur aux sept églises de l'Apocalypse, plus nombreuses que les premières. Il n'y a pas un problème d'œuvres. Quand le Seigneur dira à certains, « Je ne vous connais pas, retirez-vous de moi. » Mais on a chassé des démons en ton nom, je ne vous connais pas. On a guéri des malades en ton nom, je ne vous connais pas. Moi, ça me fait trembler. Hein. Pour dire que il faut tendre à l'unité de la connaissance. Parce que j'y viens, vous savez, je sais où je vais, où je vous amène. Je vais vous dire que le service, celui que vous servez, par le service, vous allez le connaître, lui. Tout service qui ne me fait pas connaître Jésus, il lui manque quelque chose. Nécessité de l'unité de la foi, nécessité de l'unité de la connaissance. Une bonne coordination est nécessaire, j'en ai déjà parlé. Et puis, j'ajouterai quelques... Ce n'est pas des détails, il me semble que c'est important. Le verset 16 dit « Selon la force qui convient à chacune de ses parties. » Il y a des endroits du corps qui sont vraiment solides. Et d'autres s'appuient sur ma colonne vertébrale, mon squelette. Il y a des muscles, des tendons, des liens qui sont majeurs. Et d'autres qui sont nécessaires, mais qui viennent compléter. Est-ce que vous savez que même si on est tous prêtres, on a tous une force différente. Et il ne faut pas en faire un problème. Hein. Il faut savoir ce qu'on a, ce qu'on est, et puis ce qu'on n'a pas, et ce qu'on n'est pas. Et ainsi, servir le Seigneur selon la force qu'il m'a donnée. Mais jamais, jamais, moi je serai le premier à dire, s'il te plaît, va te reposer un peu. Il y en a d'autres qui devraient se lever. Et pour toi, prends le temps de aussi ta famille et viens à l'écart te reposer un peu. Et ainsi, alors, le corps sera capable de s'édifier lui-même. Alors, il n'est pas question de mettre de côté le Seigneur quand on s'édifie soi-même, mais j'y vois là un signe de maturité collective. Une église capable de s'édifier elle-même dans la crainte de Christ et bien sûr dans la charité. Le mot revient deux fois dans la charité et professant la vérité dans la charité. On voit bien que la dimension d'amour est bien présente. Alors il va y avoir une vraie croissance. C'est quand vous vous mettrez au travail, au service, que vous allez grandir. J'aimerais relier service et croissance. Le texte en parle clairement. Service et croissance. On voudrait nous grandir et rien faire. Ben, ça ne va pas. Service et croissance vont ensemble. Il en résulte une croissance à tous égards, dit le texte. Si je peux paraphraser, je dirais dans tous les domaines. Vous savez, les ados, ils ont un problème de croissance. Et l'ancien ado que j'ai été peut vous dire que je chaussais du 44 avant que mon corps ait fini de grandir. C'est pas très agréable. Ça pousse là, ça n'a pas poussé là-bas. Et bon, après, ça se régularise. Hein. Mais il faut grandir dans tous les domaines. Grandir dans la piété personnelle. Grandir dans le témoignage, grandir dans la sanctification, grandir dans le service au sein d'une activité de l'Église. Notre croissance va se faire dans tous les domaines. Il ne faudrait pas être une Église qui a une grosse tête et un petit corps. Il ne faudrait pas qu'on soit non plus un gros corps Et puis, rien dans la tête. Il faut de l'équilibre en toute chose. Pour terminer, je dirais que on va donc être ouvrier avec Dieu. C'est intéressant, cette expression, je la trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alors c'est une chose de faire les choses pour Dieu, mais ici le texte me dit de les faire avec Dieu. C'est lui qui est le chef de l'église, c'est lui l'architecte, c'est lui qui pose le fondement, c'est lui qui est aussi la clé de voûte, c'est lui qui fait tout tenir ensemble. On fait les choses avec lui, il les fait en nous. Et je terminerai en vous disant que si vous voulez que Christ se forme en vous, servez le Seigneur. Et dans le service, plein de choses vont être apprises et Christ va être formé en vous. Je voudrais, pour terminer, avec la permission de votre pasteur, vous montrer quelques diapos. Parce que je passe aussi dans les églises en tant que président de région, non pas que ça me place au-dessus, pas du tout, ça me met au service des églises. Je voudrais vous parler un petit peu de... On est ici dans l'église locale, mais vous n'êtes pas une église indépendante, vous êtes dans une famille d'églises. Vous le saviez, je ne vous apprends rien. Elle s'appelle les Assemblées de Dieu. Et ma foi, que Dieu bénisse les autres familles évangéliques. Mais dans la mesure où le Seigneur vous a planté quelque part, c'est là que vous porterez du fruit. Si vous déplacez un arbre fruitier de son verger, si vous le changez de verger tous les ans, il ne portera jamais de fruit. Alors, vous avez été planté, portez du fruit. Persévérez, plongez vos racines, et puis vous porterez du fruit. Vous appartenez donc, nous appartenons à ce beau mouvement de Pentecôte qui s'appelle les Assemblées de Dieu. Sachez qu'en France métropolitaine, on a 65 millions d'habitants, que les protestants, un sondage récent les estime à 3,5% de la population, et que on observe depuis quand même une bonne trentaine d'années une croissance, que les chrétiens évangéliques sont estimés à 575 000 et que nous, les Assemblées de Dieu, nous revendiquons à peu près 40 000 membres. C'est un chiffre à affiner certainement. Nous appartenons, le mouvement s'est structuré depuis le temps, 1930, le mouvement s'est structuré pour fonctionner et nous appartenons à une région qui s'appelle Rhône-Alpes-Bourgogne. Et vous avez sur la carte les départements concernés. Ça représente 13% du territoire national, ça veut dire 12 départements différents, un peu de la Bourgogne, un peu de la Franche-Comté, un peu de l'Auvergne, la région Rhône-Alpes évidemment. C'est 8 millions d'habitants. Alors si hier après-midi dans les rues d'Annecy, j'avais un peu le sentiment qu'il n'y en avait peut-être pas beaucoup de sauvés, en Rhône-Alpes, 8 millions d'habitants, on a du travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Voici un petit peu le détail de la région avec les préfectures et vous avez vu, vous apparaissez quelque part, Annecy en Haute-Savoie. On a, par la grâce de Dieu, dans toutes ces villes, donc dans tous les bassins de population importants, une église qui a été ouverte. Mais pas que. On va continuer. Oui, ça c'est mon truc à moi. J'ai trouvé, j'ai trouvé que la région avait une forme de poire. Une belle poire bien mûre. J'en ai mangé des délicieuses. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter sur le fait qu'il faut porter du fruit? J'ai dit qu'un arbre planté porte son fruit en sa saison. Mais le fruit, c'est pour qui? C'est pas pour l'arbre. On n'a jamais vu un arbre manger ses propres fruits. Il donne ses fruits en sa saison. Alors je vous ai établi afin que vous portiez du fruit, dit le Seigneur. Combien avons-nous d'assemblées dans notre région Rhône-Alpes-Bourgogne? 58 lieux de culte et 36 points d'évangélisation. Et par secteur, parce qu'on a découpé la grande région Rhône-Alpes en sous-secteurs, voilà les chiffres. Gros-Mardèche, Montagne, Est et Sud Lyonnais, Bourgogne-Franche-Comté, puis Lyon-Centre. C'est l'annuaire de nos églises de 2016 qui dit ça. Et donc, on estime que nous sommes sur la soixantaine d'assemblées en Rhône-Alpes, 5250 membres. 8 millions de personnes. 5250 dans nos églises. Même s'il y a d'autres églises évangéliques, je pourrais prendre des statistiques plus complètes de celles du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, on serait quand même un tout petit pourcentage. Donc l'histoire du service, mais c'est pas une option, hein. C'est une urgence. C'est une urgence, que vous en pensez? Vous avez des gens qui partent en enfer aujourd'hui? Et je crois que c'est important qu'on se mette ça en tête pour dire, oh quand même, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, vous connaissez le texte, tu ne sais pas que tu es. Hein? Bon. Donc, replaçons les choses dans leur réalité. Continuons. Comment sont les pasteurs dans la région? Ben, on est au nombre de 62, là aussi il faudra que je révise les chiffres, ça a changé cette année. Il y en a 38 actifs, 13 retraités, 11 stagiaires. Il y a eu beaucoup de changements en 2016, puisque 12 lignes sur le tableau des changements concernaient notre région Rhône-Alpes-Bourgogne. On s'est organisé en sous-région, ça permet de faire des choses ensemble, je sais que vous le faites par ici, jeunesse, formation, rassemblement divers, ça permet de resserrer la communion. Vous êtes dans le secteur montagne, avec le département de l'Ain, le Haute-Savoie, Savoie, une partie de l'Isère, et vous fonctionnez, les jeunes se rassemblent, les formations se font, je travaille à ce qu'on progresse dans ce domaine. Il y a, et on l'a voté l'année dernière au Congrès, on l'a remis en forme, et on l'a normalement distribué à chaque membre de nos églises, un projet qui s'appelle M2, multiplication par deux. Si chaque chrétien, je le disais tout à l'heure, peut enfanter une âme, si chaque pasteur peut former un pasteur, si chaque église peut ouvrir une église, dans un certain laps de temps, on aura donc multiplié par deux. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, puisque partout dans le monde, sans concertation, sans coup de téléphone, les mouvements de Pentecôte ont quasiment tous des projets de multiplication. Et chez les Espagnols, c'est M4. Aux États-Unis, partout. En Indonésie, partout. Mouvement de multiplication. Dieu veut hâter le temps. Alors je crois qu'il nous engage à croire à la multiplication. Je sais que l'Église est imparfaite, mais je sais que dans la multiplication, dans la croissance, il y a tellement de joie qu'on en oublie les petits bobos, pas vrai? On continue. J'ai encore 5 minutes, ça va? Je fais vite. Je vous laisserai ce PowerPoint et vous pourrez le reprendre dans ce qui suit là. Je pense qu'il faut qu'on ait à l'esprit qu'on n'est pas isolé tout seul, une église à Annecy, une autre à Valence, une autre à Lyon. On est ensemble. On a un seul chef, c'est Christ. Et avec le mot fédérer, il n'y a plus rien? Voilà. Avec le mot fédérer, avec chaque lettre du mot, j'ai imaginé un acrostiche avec le F de fédérer. Est-ce qu'on pourrait favoriser l'adoration? Je m'explique. Je crois que notre motivation en cela, c'est de glorifier Dieu, quelles que soient les circonstances. Quand on entre dans l'église, quand les premières notes, les premières paroles, les premiers cantiques s'élèvent, c'est l'adoration qui doit nous soulever. Favoriser l'adoration. Pour le E, il est important d'édifier les croyants. Parce que notre motivation, c'est vraiment d'acquérir de la maturité spirituelle. Arriver à la stature parfaite de Christ. Édifier les croyants. Les versets sont là, vous pourrez les reprendre plus tranquillement. Pour le D, j'ai pensé à développer la communion fraternelle. Tout ce qui peut permettre la communion fraternelle. Notre motivation, c'est le soutien mutuel. On a besoin les uns des autres. Et que ferait un footballeur sans son équipe? Tout seul, il ne pourra pas. Pour la lettre suivante, le E, j'ai pensé à évangéliser les perdus. Effectivement, notre motivation, c'est le salut des âmes. Et si on est église à Annecy, c'est pour parler aux perdus. Le R devrait nous rappeler qu'il faut rendre possible le service du plus grand nombre. Et on y est. Et on y est, c'est le thème de ce week-end. Parce que notre motivation, c'est l'efficacité et la croissance. Chacun à son poste, ça fera du bon travail. Ensuite, il y a un E, encourager la foi et la vie de l'esprit. Mais oui, les miracles, c'est pas fini. Notre motivation, des miracles qui glorifient Dieu. D'authentiques paroles de connaissance, de sagesse, des paroles de guérison. Les dons sont là pour notre équipement. Encourager la foi et la vie de l'esprit. Puis enfin, le R du verbe fédérer. Le R, j'ai pensé à rester éveillé. Parce que notre motivation, c'est le retour de Jésus. Il revient bientôt. Et il faut rester éveillé. Cette parole résonne plus que jamais. Veillez, veillez, soyez sobres. Que Dieu vous bénisse. Et que vraiment, la parole de Dieu, parce que finalement, ce que j'ai apporté, c'est, je crois, c'est la parole de Dieu qui porte du fruit en nous, va nous donner à tous d'avancer sur ce terrain du service, au service de Dieu, au service de son Église. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ensemble? Merci mon Dieu, parce que tout dans ta parole nous indique que tu as pour